Bonjour et bienvenue. C'est le 21 décembre 2017. Aujourd'hui, Hélène Denis qui vous accompagne. L'émission Le quotidien des quotidiens prend son envol. Bonjour Mathieu.
Bon matin.
Hey, vous avez installé une plante à la régie. Je vous vois à pratiquement plus. Alors, vous allez bien, vous?
Ça va.
Oui, un petit rhume, hein?
Oui, c'est ça. Je pense que ça commence, là, mais c'est pas grave.
Bon, ça, souvent, les gens finissent l'année comme ça, un peu sur le derrière, si je puis dire, si vous me permettez l'expression.
Bien, je vous la permets, puisque je l'aurais dit moi-même.
Oui, alors, beaucoup d'eau pour vous.
Tout à fait.
Du thé chai.
Tout à fait.
Pour moi aussi. Parce que Mathieu me prépare assez souvent un bon petit thé, puis ça réchauffe l'âme. Ça fait toujours du bien. Alors... Je voulais vous dire aussi que dans les éphémérides, je ne sais pas si vous avez pensé, 21 décembre 2017, 11h28.
Oui, c'est aujourd'hui exact.
La rentrée de l'hiver officiel.
Tout à fait. Donc, dès qu'on a terminé...
Le quotidien des quotidiens,
voilà. C'est le début de l'hiver.
Oui, dès que la pause commence avant les paractualités.
Exact. Donc, bon. Soyez à l'affût, soyez
prêts. On a bien arrangé ça cette année.
Ça tombe exactement à la pause.
Oui.
C'est parfait.
On vous écoute.
D'accord. 1898, Pierre et Marie Curie nomment radium un nouvel élément obtenu par la cristallisation successive avec l'aide de Gustave Bémont. Il s'avère 900 fois plus actif que l'uranium. En 1903, c'est le premier prix Goncourt. Donc, il a été décerné à John-Antoine Nau pour son livre « Force ennemie ». En 1913, c'est la parution du premier mot croisé dans le New York World. Le succès sera tel qu'en moins de 10 ans, tous les journaux adopteront cette pratique. 1942, l'aviation britannique bombarde Munich. Début du rationnement du beurre au Canada en 1942. 1958, Charles de Gaulle est élu président de la 5e République par un collège de parlementaires. Il fera ensuite instaurer l'élection du président au suffrage universel. 1965, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale est adoptée par l'ONU. Nous avons en 1968 lancement d'Apollo 8, la première mission spatiale habitée au-delà de l'orbite terrestre. En 1974, à Montréal, le cœur du frère André, volé à l'oratoire Saint-Joseph en mars 1973, est finalement retrouvé. La loi créant le système d'assurance auto est adoptée par l'Assemblée nationale en 1977. En 1993, le président Boris Eltsine annonce l'abolition du Comité de Gosudarstvennoï de Bezopasnosti, qui est le KGB. Et ne vous en faites pas, ma prononciation est probablement fort mauvaise, mais je me suis pratiqué.
Ben, moi, je trouve que c'est assez impressionnant.
Vous êtes bien aimable. En 1999, des savants américains trouvent dans une protéine infectieuse un lien entre la maladie de la vache folle et celle de Creutzfeldt-Jakob chez l'homme. En 2005, la Cour suprême du Canada autorise les clubs d'échangistes sexuels entre adultes consentants. Et en 2006, un expert conclut que Québec doit verser 2,3 millions à Simon Marshall, qui a purgé 7 ans de prison pour des crimes sexuels qu'il n'avait pas commis. Pour ce qui est des naissances, nous avons Jean Gascon, qui est né en 1921, un 21 décembre. Il est évidemment acteur et metteur en scène.
Le père de Nathalie Gascon, cofondateur du TNM. Je vous laisse tousser un peu, Mathieu.
Bien, merci. Et c'est ma dernière. Michèle Tisser, animatrice de radio et télévision et traductrice québécoise, nous a quittés un 21 décembre en 2014. Elle qui était née un 13 mars 1918.
Oui, entre autres, la mère de Charles Tisser, animateur de l'émission Fascinante Découverte. À la une de la presse de ce 21 décembre, la presse en Espagne, promenade dans Madrid en colère. Les électeurs de Catalogne décident aujourd'hui s'ils reconduisent au pouvoir leurs dirigeants indépendantistes. Notre chroniqueur Yves Boisvert s'est rendu hier à Madrid, de l'autre côté du miroir de la crise catalane. Les gens veulent avoir confiance en nous. Entretien avec le nouveau chef par intérim du SPVM, Martin Prudhomme. La chronique de Rima El Khoury, il est mort au matin de sa vie. Vacances chez l'Aga Khan, Trudeau s'excuse. Et pause repas test de goût, la crème des bûches de supermarché. Service de police de la Ville de Montréal, système de promotion culture des clans, course à la direction du SPVM, plus que la simple refonte des affaires internes, c'est une réforme en profondeur du volet direction du service de police de la Ville de Montréal que son nouveau chef par intérim, Martin Prudhomme, entend accomplir durant son court mandat d'un an. Pour la première fois depuis sa nomination fracassante le 6 décembre, M. Prudhomme a fait hier une sortie publique auprès des médias écrits, dans l'uniforme bleu de la police de Montréal. Quand on lui a demandé s'il y avait encore du ménage à faire au SPVM, Martin Prudhomme a répondu d'emblée qu'il voulait examiner tout le système de promotion, la culture des clans, des collègues qui sont amis, qui ont des affinités et qui s'entraident pour gravir les échelons, au détriment d'autres personnes compétentes et les courses à la direction. Quand on parle de sentiments et de culture, il y a des choses à changer. Ça fait partie de mon mandat. Martin Prudhomme croit qu'il pourrait rapatrier rapidement au cours de la prochaine année les enquêtes internes du SPVM, transférées à une équipe mixte chapeautée par la Sûreté du Québec à la suite de la crise de confiance qui a frappé la police de Montréal en février dernier. Il dit avoir un plan qu'il veut communiquer à son personnel et aux autorités concernées avant de le rendre public, mais pas avant février. Le mandat de Martin Prudhomme est d'un an, mais il ne sait pas s'il restera moins ou plus longtemps, cela dépendra du moment où il jugera que le service est sur les rails. Sans vouloir commenter la manière dont le chef du SPVM est choisi, Martin Prudhomme est pour un processus uniforme de sélection pour l'ensemble des chefs de tous les corps de police du Québec. Je suis content de voir que la commission Chamberlain en a fait l'une de ses recommandations. Au sujet du retour de l'inspecteur Yann Lafrenière à la tête des communications du SPVM, Martin Prudhomme a dit qu'il y avait un problème à cet endroit et qu'il fallait le régler. Pour prévenir d'autres affaires lagacées, entre guillemets, Martin Prudhomme a annoncé hier à tous ses cadres la mesure qu'il avait déjà adoptée lorsqu'il était à la Sûreté du Québec. Si jamais une personne au statut particulier, comme un journaliste, un avocat ou autre, ressort dans une enquête, le dossier devra remonter jusqu'à son bureau et c'est lui seul qui autorisera ou non des demandes de mandat. Avec l'arrivée de Martin Prudhomme à la tête du SPVM, des enquêteurs ont confié à la presse qu'ils craignaient que la SQ n'en profite pour mettre la main sur les enquêtes spécialisées, crimes organisés, homicides, crimes contre la propriété, stupéfiants, etc., de la police de Montréal. À ce sujet, le chef intérimaire du SPVM a été très clair. « Si j'avais voulu faire ça, j'en aurais parlé lorsque j'étais sous-ministre à la Sûreté, à la Sécurité publique. Il n'y a aucun danger que ça arrive. » Et Martin Prudhomme porte fièrement, c'est lui qui le dit, l'uniforme bleu de la police de Montréal depuis 3 jours. Il a admis qu'il se demandait comment il serait reçu. Il a fait la tournée de tous les services et escouades du SPVM et dit avoir été bien accueilli, soulignant même une blague qu'une dizaine d'enquêteurs des enquêtes spécialisées de la place Versailles lui ont fait lors de sa visite en portant une chemise de la SQ. De belles choses ont été faites au SPVM dans le passé. Ce n'est pas vrai que tout est mal fait. Le SPVM est un beau service de police composé de bons policiers, policières et employés qui font du bon travail au quotidien. Objet saisi dans les aéroports canadiens, Montréal, capitale des armes prohibées. Selon des données obtenues par la presse en vertu de la loi sur l'accès à l'information, les employés de l'Agence canadienne de la sûreté du transport aérien, ACSTA, ont saisi 1132 objets illégaux dans les principaux aéroports du pays l'an dernier contre 447 l'année précédente, un bond de 253% en un an. Environ la moitié des articles interceptés sont des couteaux de format carte de crédit. Ces armes discrètes achetées principalement sur le web sont arrivées en force sur le marché canadien au début de 2016. Comme leur lame est dissimulée, elles sont considérées comme illégales en vertu du Code criminel du Canada, souligne l'agence. Parmi les autres objets saisis, on retrouve des étoiles ninja, des nunchakus, N-U-N-C-H-A-K-U-S, pardon?
Je crois qu'on dit nunchaku.
Oui, d'accord, merci. Des pistolets taser, des canettes de gaz poivre, des poings américains et une variété de couteaux prohibés. Pointe de l'iceberg. Jean-Pierre Fortin du syndicat des douanes et de l'immigration avance pour sa part que le nombre d'objets illégaux saisis et comptabilisés ne représente sans doute que la pointe de l'iceberg. Il déplore depuis longtemps un manque d'effectifs dans les différents points de fouille du pays. Est-ce qu'on pourrait en saisir plus? Certainement. Nos agents font ce qu'ils peuvent. Ils font un bon travail. Ils sont là pour le démontrer. Mais c'est sûr qu'avec des effectifs suffisants, on pourrait en détecter plus. De la fausse huile d'olive 100% pure vendue par une entreprise de Laval, c'est un texte de Stéphanie Bérubé, une entreprise de Laval qui importe de l'huile d'olive a payé une amende de 20 000 $ le mois dernier après avoir vendu de l'huile d'olive et de l'huile de pépins de raisin de façon trompeuse. Les entreprises Simon et Noland ont plaidé coupables le 14 novembre 2017 au Palais de justice de Laval à 4 chefs d'accusation pour avoir contrevenu à la loi sur les aliments et drogues du Canada. En conséquence, dis-je bien, certains éléments de l'enquête menée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ACIA, ASIA, demeurent confidentiels. Impossible de savoir quelles substances étrangères ont été utilisées pour couper les huiles pures, ni dans quelles proportions elles se sont retrouvées dans les bouteilles. Le président de Simon et Noland, Antonio Di Gennaro, n'a pas rappelé la presse. Il y avait de l'huile d'olive, mais celle-ci ne correspondait pas aux critères du Conseil oléicole international ni au règlement sur les aliments et drogues du Canada. C'est pour cela qu'elle n'était pas à 100% pure, explique Maître José Pratt du Service des poursuites pénales du Canada, qui a mené les dossiers. La famille Villanueva a dû faire une croix sur sa poursuite de 1 million de dollars contre la ville de Montréal et les deux policiers impliqués dans la mort de Freddy Villanueva en 2008. Elle poursuit maintenant son avocat Peter George Louis pour la même somme pour sa négligence grossière. Leur droit d'ester en justice a été réduit à néant en conséquence directe des actions et omissions dont s'est rendu responsable le défendeur Maître George Louis, déplore la succession de Freddy Villanueva et Liliane Maribel Madrid-Antune, la mère du défunt, dans une poursuite déposée cette semaine au Palais de justice de Montréal. L'avocat avait tenté en février 2009 une poursuite de 990 000 $ contre la Ville de Montréal et les agents Jean-Loup Lapointe et Stéphanie Pilote. Cette procédure avait toutefois été suspendue en avril jusqu'à la conclusion de l'enquête publique du coroner. Or, Maître George Louis ne s'est jamais présenté devant la Cour en janvier 2014, à la suite du dépôt du rapport du coroner en décembre 2013. Les projets que caressait l'ex-maire Denis Coderre pour valoriser la place du cheval à Montréal ne verront pas le jour. La nouvelle administration Plante a rendu public ce matin un rapport longtemps secret gardé en disant La nouvelle administration Plante a rendu public ce matin, j'imagine que c'était hier matin, un rapport longtemps secret gardé en disant qu'elle n'entendait pas les réaliser en raison de la facture trop élevée. L'administration Coderre avait reçu en 2014 un rapport sur la place du cheval à Montréal de l'organisme Cheval-Cheval. Le rapport Cheval-Cheval, qui n'avait jamais été rendu public, détaillait notamment des projets que l'administration Coderre entendait mettre en place, comme la création d'une écurie municipale et d'un Poney Club au Parc Angrignon, projets qui ne verront finalement pas le jour.
That's Frosty the Snowman, he's a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found, for when they placed it on his head, he began to dance around. Oh, Frosty the Snowman was alive as he could be, and the children say he could laugh and play just the same as you and me.
Oh, Frosty the Snowman knew the sun was hot that day,
so he said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. Catch me if you can. He led them down the streets of town, right to the traffic cop. And he only paused a moment when he heard him holler, stop. For Frosty the Snowman had to hurry on his way. But he waved goodbye, saying, don't you cry, I'll be back again someday. Thumpity thump thump, thumpity thump thump, look at Frosty go. Thumpity thump thump, thumpity thump thump, over the hills of snow.
Frosty the Snowman, que nous chantait Ella Fitzgerald.
À la une du Devoir, conflit d'intérêts, Trudeau blâmé sévèrement. La commissaire à l'éthique ne croit pas le premier ministre qui évoque une amitié avec l'Aga Khan pour justifier les vacances passées sur son île. Il y a une photo de M. Trudeau. Justin Trudeau a rencontré les représentants de la presse quelques heures après la publication du rapport de la commissaire à l'éthique. C'est ce qu'on peut lire sous la photo de Justin Trudeau. Réfugiés, Québec prolonge de 6 mois le moratoire sur le parrainage privé. L'octogénaire Blanche-Neige est increvable, c'est un papier de Manon Dumais, et qui commence ainsi, ayant 80 balais, les cheveux noirs comme l'ébène, la peau blanche comme la neige, les lèvres rouges comme le sang, Blanche-Neige demeure aussi fraîche que le soir de la première à Los Angeles du film Blanche-Neige et les sept nains le 21 décembre 1937. L'année suivante, la gracieuse princesse avait toutes les raisons de fredonner « Un jour, mon prince viendra » puisqu'il permet à Walt Disney de remporter le Grand Prix à la Mostra de Venise. On a une photo de Blanche-Neige, une scène tirée du film Blanche-Neige et les sept nains. Aux urnes, les Catalans votent ce jeudi pour élire un nouveau gouvernement à la suite de la mise en tutelle imposée par Madrid. Patrimoine, Ottawa propose à l'UNESCO d'inscrire Anticosti. Martin Prudhomme, un an pour remettre le SPVM sur la bonne voie. Non, Justin Trudeau et la GACAN ne sont pas de véritables amis et pour cette raison, la commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique conclut que le premier ministre s'est placé en situation de conflit d'intérêts en acceptant de séjourner sur l'île privée du philanthrope l'hiver dernier. Le rapport tant attendu de la commissaire Mary Dawson a été déposé à Ottawa alors que la Chambre des communes a levé le camp il y a une semaine déjà pour le congé de Noël. Le rapport est accablant en ce qu'il conclut que le premier ministre a enfreint 4 articles de la loi sur les conflits d'intérêts. Avoir accepté un cadeau qui pourrait raisonnablement donner à penser qu'il a été donné pour l'influencer, entre parenthèses les voyages, car il y en a eu plus d'un, ne pas s'être récusé de discussions concernant la GACAN, ne pas avoir géré ses affaires personnelles de manière à éviter de se trouver en conflit d'intérêts, avoir utilisé un transport interdit, l'hélicoptère privé de la GACAN. Dès que son voyage familial à Bill's Cay a commencé à faire les manchettes, le premier ministre a plaidé que sa famille entretenait une amitié avec la GACAN depuis l'époque où son propre père était premier ministre. Comme la loi prévoit une exception pour les cadeaux provenant d'amis, M. Trudeau se défendait de l'avoir enfreinte. Or, la commissaire Mary Dawson fait voler en éclats cette thèse. M. Trudeau n'a eu aucun rapport privé ou personnel avec la GACAN entre 1983 et 2013, une période de 30 ans, note-t-elle. On apprend dans ce rapport que les Trudeau se sont rendus 3 fois sur l'île privée de la GACAN. La commissaire conclut que M. Trudeau n'a pas géré ses affaires personnelles de manière appropriée. Justin Trudeau a promis de ne plus récidiver. Si j'avais à refaire ça, on aurait fait ça différemment. Les chefs de l'opposition ont vertement critiqué le premier ministre, rappelant que Justin Trudeau est le premier ministre de l'histoire à être déclaré officiellement en contravention de la loi sur les conflits d'intérêts. L'hôtel où fut lancé Duplessis est réduit en cendres. Au temps de sa gloire, le Magog House fut à Sherbrooke un lieu de passage obligé. C'est dans cet hôtel construit en 1836 que fut lancé en 1935 l'Union nationale, le parti qui propulsera au pouvoir Maurice Duplessis. Ce bâtiment patrimonial, un des plus vieux de Sherbrooke, a été détruit par les flammes le 20 décembre au petit matin. Plusieurs commerces ont été abrités par ce bâtiment patrimonial au fil de sa longue histoire, dont des bars, des restaurants, des studios de photographes et des galeries d'art. La radio communautaire CFLX y eut longtemps ses studios au dernier étage. Les animateurs de la station, pour expliquer le moindre problème technique, évoquaient régulièrement le fantôme de Maurice Duplessis. Confronté à la menace d'une poursuite en justice, le premier ministre Philippe Couillard a complètement écarté mercredi son ministre Gaétan Barrette des négociations avec les médecins spécialistes. La Fédération des médecins spécialistes du Québec, FMSQ, prétend que le ministre Barrette refusait jusqu'ici de soumettre les conditions de pratique des médecins à la négociation. Le bureau du premier ministre a confirmé avoir désormais l'intention de le faire. Le premier ministre vient de dire 2 choses. D'abord, que les médecins spécialistes ont le droit de négocier leurs conditions de travail. Ensuite, cette partie de discussion-là vient d'être enlevée à M. Barrette et elle s'en va au nouveau comité de négociation, a résumé la directrice des affaires publiques de la FMSQ, Nicole Pelletier. C'est donc au négociateur Maurice Charlebois que reviendra la tâche de mener l'ensemble des discussions. La présidente de la FMSQ, Diane Francoeur, s'est montrée soulagée de ne plus avoir à travailler avec celui qui a autrefois occupé son poste. Il est clair que Gaétan Barrette ne sera plus à la table de négociation, s'est-elle réjouie, dans une conférence de presse organisée à 13 heures. Comprenez emboîté jusqu'à tout récemment pour son hypothétique potentiel pétrolier, l'île d'Anticosti est désormais reconnue pour sa valeur patrimoniale. Le gouvernement fédéral a en effet annoncé mercredi que la plus grande île du Québec sera inscrite sur la liste des sites du patrimoine mondial au Canada, une étape cruciale en vue de sa candidature à l'UNESCO. Anticosti fait donc partie de la courte liste des 8 sites retenus par Ottawa, parmi les 42 candidatures reçues, dont celle du Mont-Royal. Cette inscription sur la liste indicative des sites du patrimoine mondial au Canada est essentielle avant de déposer un dossier en vue d'une inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le metteur en scène Dominique Champagne, un ardent défenseur de l'île qui a réalisé le documentaire « Anticosti, la chasse au pétrole extrême », a lui aussi réaffirmé la grande valeur des lieux. Il y a Anticosti une valeur patrimoniale indéniable, non seulement un patrimoine naturel réel, mais aussi une grande valeur dans la rencontre des Anticostiens et de leur art de vivre. C'est un trésor national, a-t-il fait valoir au Devoir. La Canadienne qui a perdu la vie dans l'accident d'autocar survenu mardi dans la péninsule du Yucatan au Mexique était une résidente de Gatineau, selon les informations obtenues par la presse canadienne. Stephanie Harwood, 41 ans, j'ai lu ailleurs 42 ans, était originaire de Saint-Jean à Terre-Neuve et Labrador. Elle vivait à Gatineau avec son conjoint et leurs deux filles qui ont été légèrement blessées dans l'accident, déclaré la belle-mère de Mme Harwood, Carole Pommett-Rentaler. L'accident aurait été causé par la négligence du conducteur et un possible excès de vitesse, d'après l'enquête préliminaire des autorités mexicaines. Le conducteur, qui fait partie des 20 personnes blessées dans l'accident, a été arrêté par les autorités. Et la Société historique du Canada ne remettra plus à un historien méritant un grand prix baptisé du nom de l'ancien premier ministre John A. Macdonald. La présidente de l'association, Adele Perry, indique que ce prix vieux de 40 ans sera en principe renommé à la suite du prochain congrès annuel qui se tiendra en mai. Selon la direction de la Société, les historiens doivent contribuer à ces discussions sur la commémoration, les noms et le changement.
Montréal, virgule, le 19 décembre. Bonjour grands-parents, cousins, belles-sœurs et tantes. J'écris juste pour faire une annonce officielle. Cette année, je vais être tout seul à Noël. Si j'emballe mes cadeaux dans du papier journal enrubanné de tape électrique, ou si pour dessert j'apporte des biscuits feuilles d'érable, j'aimerais que tout le monde soit compréhensif. Jingle bell, je serai seul à Noël, comme le Père Noël dans le ciel. Jingle bell, je serai seul à Noël, n'achetez pas de cadeaux pour elle. Je vais faire tout ce que je peux pour ne pas en parler. La bouche constamment remplie de Ferrero Rocher. Si la curiosité vous dévore par en dedans, assoyez-moi à table des enfants. Et si j'emballe mes cadeaux dans du papier journal enrubanné de tape électrique, ou si pour dessert j'apporte une vieille boîte de céréales, vas-tu vraiment falloir que je m'explique? Jingle bell, je serai seul à Noël, comme le Père Noël dans le ciel. Jingle bell, je serai seul à Noël, n'achetez pas de cadeaux pour elle. Ça se peut que j'emballe mes cadeaux dans du papier journal enrubanné de ma skin tape. Si je bois trop de gin ou que je crouse mes cousines, sortez-moi dehors en combine. Jingle bell, je serai seul à Noël, comme le Père Noël dans le ciel. Jingle bell, je serai seul à Noël.
Trois gars sur le sofa et leur chanson « Pas de cadeau pour elle ».
À la une du Journal de Montréal de ce jeudi 21 décembre, le Cirque sur patins. Pour la première fois de son histoire, le Cirque du Soleil présente un spectacle sur glace dont c'était la première Montréal hier, notre critique en page 39. Cafouillage au SPVM, citation de Martin Prudhomme, « Les policiers sont tannés ». Vacances sur l'île privée d'un milliardaire, Trudeau blâmé. Le nouveau chef du SPVM veut faire le ménage. L'ex-enquêteur de l'escouade Carcajou admet qu'il y a beaucoup de choses à régler durant son court mandat d'un an. Au sommet de sa liste, il y a l'urgence de tourner la page sur la crise des affaires internes et de rebâtir les liens de confiance entre les citoyens et le SPVM. Pour moi, c'est non négociable. Ça va prendre de la transparence et de l'honnêteté dans nos communications à l'interne comme à l'externe. Il faut que les gens comprennent ce qu'on fait. On réclame 50 ans pour un évadé de prison. Cette peine pourrait être une des premières au Québec. Benjamin Hudon Barbeau, connu pour son audacieuse évasion de prison en hélicoptère en 2013, est tellement dangereux qu'il pourrait bien devenir l'un des premiers criminels au Québec à se voir imposer deux peines consécutives de 25 ans. Reconnu coupable par un jury en novembre de deux meurtres et de deux tentatives de meurtre, il est automatiquement condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans pour avoir commandé le meurtre de Pierre-Paul Fortier en 2012. Toutefois, Steve Baribeau a demandé une peine de 25 ans de plus avant que Hudon Barbeau soit admissible à être libéré pour le meurtre au second degré de Frédéric Murdoch. Si la juge France Charbonneau, qui a présidé la commission d'enquête sur la construction, retient la suggestion de la couronne, Hudon Barbeau aura 91 ans au moment où il pourra demander une libération conditionnelle. Alexandre Coderre rembourse sa fraude. Il a aussi suivi une thérapie sur la cyberdépendance. Le fils de l'ex-maire de Montréal, Denis Coderre, a commencé à rembourser les quelques 16 000 $ qu'il avait fraudés en raison de sa cyberdépendance. Alexandre Coderre s'était engagé à rembourser les compagnies qui avaient subi des pertes et c'est lui qui rembourse, pas quelqu'un d'autre, a expliqué son avocat Conrad Laure hier au Palais de justice de Montréal. Coderre, 22 ans, était de retour à la cour pour les plaidoiries sur la peine, mais le dossier a été reporté le temps qu'il termine le remboursement des sommes exigées par la couronne. Si vous achetez du pain emballé dans un magasin de l'Oblat, vous pourriez avoir droit à une carte de 25 $ que remet l'entreprise pour s'excuser d'avoir comploté pour fixer les prix durant près de 15 ans. L'entreprise L'Oblat, qui détient notamment les supermarchés Provigo et Maxi, ainsi que la compagnie de pain Weston, ont admis mardi soir qu'elles avaient participé à une entente de fixation des prix concernant certains produits de boulangerie de la fin 2001 à mars 2015. Les deux compagnies qui appartiennent à la même société, George Weston Limited, ont aussi annoncé qu'elles ont congédié les employés responsables et mis en place des mesures pour éviter que cette situation se reproduise. On ignore combien les consommateurs ont payé en trop en raison de ce cartel du pain, mais la compagnie a décidé d'offrir une carte de 25 $ à dépenser dans ses magasins aux consommateurs admissibles. Les compagnies estiment qu'elles donneront de 75 à 150 millions. On ne sait pas combien ont empoché les compagnies avec cette entente, alors c'est difficile de savoir si 25 $ c'est suffisant ou non. On ne sait pas non plus si en acceptant le 25 $ on renonce à la possibilité de participer à un recours collectif. Ça peut être un cadeau empoisonné, insiste Joé Zucrane de LPC Avocat. Des experts ne comprennent pas comment le stratagème de Loblaw et Weston sur la fixation des prix des produits de boulangerie emballés a pu s'échelonner sur près de 15 ans. L'enquête du Bureau de la concurrence du Canada s'étend également à 5 autres entreprises, d'après des déclarations sous serment d'un officier de police judiciaire de la concurrence que le journal a consulté. Il s'agit de Canada Bread, Metro, Tigre Géant, Sobeys et Walmart. Moins d'amendes dans le métro, des organismes réclament une diminution des peines à l'endroit des itinérants. Les inspecteurs de la STM continuent de remettre trop de constats d'infraction aux plus démunis, déplorent deux organismes montréalais. Hier, la STM a organisé un point de presse pour souligner sa participation dans le pôle de services en itinérance, un service d'aide aux itinérants offert dans 5 stations de métro de la métropole par 7 intervenants spécialisés. Alors que 430 interventions avaient été réalisées en 2012 lors du lancement de l'initiative, environ 3500 interventions sont désormais réalisées par année auprès de nombreux itinérants qui bénéficient ainsi d'un soutien moral et peuvent être guidés, s'ils sont d'accord, vers des refuges ou d'autres ressources d'aide. En intervenant auprès des itinérants, on évite les appels au 911, on évite la remise de tickets parce qu'on fait du travail de prévention, a souligné le directeur général de la Société de développement social, Émile Roux. Selon Élise Solomon, organisatrice communautaire au réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, la remise de multiples constats d'infraction aux itinérants qui se couchent sur un banc, boivent de l'alcool ou circulent pieds nus dans le métro nuit à leur réinsertion sociale. L'hôtel de ville fermera ses portes au mois d'avril ou de mai 2019 pour ne rouvrir que 30 mois plus tard, soit à l'automne 2021. Le bâtiment municipal inauguré en 1878 fera l'objet d'importants travaux de rénovation et devra être vidé de ses occupants. Les élus et fonctionnaires déménageront donc pendant cette période dans l'édifice Lucien Saunier situé à côté de l'hôtel de ville. Pour accueillir ces nouveaux locataires, l'immeuble patrimonial fera l'objet de travaux de mai 2018 à mars 2019. Les coûts de ce réaménagement, on prévoit entre autres la mise en place d'une salle de conseil municipal, s'élèveront à 8 millions de dollars selon le sommaire décisionnel remis au comité exécutif. La femme qui a happé son conjoint accusé. La veuve espère que justice sera rendue dans ce dossier. La conjointe d'un signaleur routier heurté mortellement par une automobiliste impatiente sur un chantier en Estrie se dit délivrée d'un poids depuis qu'elle a appris que la conductrice est accusée d'homicide involontaire. « Ça ne me ramènera pas à Michel, mais au moins c'est un processus qui part et on espère que justice sera rendue », a déclaré Lynn Lemay. Le 7 novembre, son conjoint Michel Carmel coordonnait des travaux d'asphaltage sur la route 220 à Bonsecours lorsqu'il a été heurté par une conductrice. L'homme de 60 ans a été maintenu en vie artificiellement pendant plusieurs jours avant de finalement succomber à ses blessures. Catherine Geoffroy, 30 ans, a été accusée de conduite dangereuse, de délit de fuite d'agression armée et d'homicide involontaire hier pour avoir happé mortellement le signaleur. Les pompiers de Montréal ont fait des centaines d'heureux en distribuant leur traditionnel panier de Noël à des familles démunies hier matin. Depuis maintenant 30 ans, les pompiers de Montréal réchauffent le cœur de centaines de familles en situation de pauvreté à quelques jours de Noël en leur livrant des cadeaux, une campagne annuelle qui est devenue une véritable tradition familiale. Des dizaines de bénévoles, dont plusieurs pompiers à la retraite, s'affairaient hier matin à confectionner d'immenses paniers de Noël qui ont ensuite été livrés à 850 familles durant la journée. Les familles sont choisies par la Saint-Vincent-de-Paul.
Il y a le beau-frère qui a lui-même travaillé plus que tout le monde, épuisé. Et la belle-sœur qui a elle-même cuisiné plus que l'autre belle-sœur déjà renfrognée. Pour le réveillon, 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 le Noël. Suffisait et alors c'est à une heure bien spécifique. Nous servirons les amuse-gueules, et tant pis pour ceux qui en veulent, pis dans le trafic. Pour le réveillon, pour le réveillon, pour le réveillon, pour le réveillon, pour le réveillon. De Noël. Et quand sonnera minuit, ce sera déjà fini que je me dis. Dehors la neige tombe verticale, une vraie carte postale, aurait dit ma mère. C'est tout blanc. Pour le réveillon,
pour le réveillon,
pour le réveillon,
pour le réveillon,
pour le
Daniel Bélanger pour cette chanson pour le réveillon.
Les journaux régionaux dans le Nouvelliste, la chronique d'Isabelle Légaré intitulée Le poids de la solitude. Est-ce que ta mère est arrivée? J'ai eu beau lui faire mon plus grand sourire en lui posant cette question. Olivier Pagé n'est pas dupe. Il a vite détecté la petite panique dans mes yeux. Avant même de m'ouvrir la porte, il savait que j'aurais un choc en constatant de visu la lourdeur de son cas. Olivier Pagé a 28 ans et est atteint de la paralysie cérébrale. Des complications à la naissance, quelques secondes sans oxygène et le mal était fait, handicapé à vie. Le jeune homme qui m'accueille dans son logement adapté de Trois-Rivières ne présente aucun déficit intellectuel, sauf que tout son corps est à la merci de mouvements involontaires et incontrôlables. Pour empêcher ses bras d'aller de tous bords, tous côtés, comme une marionnette désarticulée, Olivier emprisonne ses mains entre ses jambes qui, elles, sont totalement immobiles. Seul son gros orteil réagit au doigt et à l'œil. Il s'en sert pour diriger son fauteuil roulant électrique et activer les manettes, souris d'ordinateur, télécommande, sonnette et autres boutons de commande qui ont été placés ici et là dans son appartement à la hauteur de son pied droit. Olivier pitonne avec une agilité déconcertante, mais ce n'est pas pour me faire une démonstration qu'il a accepté que je me présente chez lui. Olivier a décidé de mettre son orgueil de côté pour alléger le poids de sa solitude. Comme une bouteille lancée à la mer, il vient de jeter pas un, mais deux messages dans l'océan des réseaux sociaux. Le jeune homme espère trouver celui qui l'aidera à sortir de ses quatre murs et aussi celle qui l'aimera, telle qu'il l'est. « Je suis tannée. » C'est Olivier qui parle, mais c'est sa mère qui traduit. Dans un échange de courriel, Olivier m'avait averti de ses importants problèmes de langage. De deux choses l'une, ou nous poursuivions la conversation via nos claviers respectifs, ou il faisait appel à celle qui le connaît mieux que quiconque pour déchiffrer ses réponses. Michel et Olivier Pagé sont fascinants à regarder dialoguer entre eux. Elle saisit du premier coup chacun des mots que son fils arrive à prononcer, devinant même le non-dit. « Toi aussi, tu serais capable au bout d'une semaine », assure la dame en me faisant remarquer que l'immersion reste la meilleure façon d'apprendre une langue qui nous est totalement étrangère. Un truc avec Olivier? Lui poser des questions qui amènent des oui ou des non. Le principal concerné semble parfaitement d'accord avec cette théorie. Ses yeux rieurs en disent long sur sa volonté de nous démontrer qu'avec patience et humour, on peut surmonter les obstacles de la communication. Lorsqu'on est avec Olivier, on entre dans un autre monde. « Moi-même, avant de mettre le pied ici, il faut que je me parle », explique Michel Pagé, qui, comme nous tous, court après le temps. En présence de son fils, par contre, elle ajuste son rythme au sien. Olivier vit avec la paralysie cérébrale, mais il n'est pas différent des autres hommes de 28 ans qui aiment se retrouver entre amis et autour d'une bière, partir en week-end et improviser selon l'humeur du moment. Confiné à son appartement où il reçoit des services de maintien à domicile 24 heures sur 24, Olivier se sent bien seul à travers ce va-et-vient. Pour échapper à sa monotonie, il a besoin d'un coup de main. « Je suis à la recherche d'un gars fort, qui aime rire, qui a une auto, qui n'a peur de rien », a-t-il énuméré dans son message Facebook où le trifluvien s'est engagé à rembourser les frais de déplacement de celui qui acceptera de le suivre bénévolement dans sa quête de liberté. Tout comme lui, Michel Pagé espère que quelqu'un quelque part se portera volontaire, même si cet appel à tous lui ramène en plein visage la réalité de son fils. « J'ai 55 ans, je ne peux quand même pas sortir dans les bars avec lui. Je suis sa mère, pas sa blonde. » Celle qui a toujours répété « Je vais faire jusqu'au bout du maximum de ce que je pourrai » se rend à l'évidence. Olivier sera toujours un être fragile, mais ce n'est plus un enfant. Le jeune homme adore sa mère, mais c'est sur l'épaule d'une copine qu'il aimerait appuyer sa tête en regardant un film. Olivier souhaite rencontrer l'âme sœur. « J'ai toute ma tête. C'est mon corps que je ne contrôle pas parfaitement. Je ne vous cacherai pas que j'ai besoin d'aide pour manger. Oui, peut-être que ça fait peur, mais à vous d'en juger seulement », écrit-il en toute franchise à l'intention de celle pour qui la paralysie cérébrale n'est pas une barrière à l'amour. Parfaitement conscient que cette personne pour le moins exceptionnelle ne sera pas facile à trouver, Olivier croit cependant qu'elle existe. « Et non », spécifie son message, « il n'a pas de voiture ». Mais est-ce si important au fond? J'ai un teint basané, des bras musclés et un grand cœur qui peut aimer malgré l'handicap. Dans Le Soleil, un article de Jean-Michel Genois-Gagnon, « Avant les fêtes, les fraudeurs s'activent ». Ça recommence. Le temps des fêtes arrive, les fraudeurs s'activent. Des membres d'institutions financières, entre autres chez le Mouvement des Jardins et la Banque de Montréal, ont reçu, au cours des derniers jours, par messagerie, texte des informations indiquant que leur compte bancaire avait été bloqué. Dans l'une des missives, au nom de Desjardins, les arnaqueurs invitent les victimes à accéder à un faux compte sur une plateforme similaire à celle d'Accéder, afin de régler le problème. Les différences entre la reproduction de l'interface du portail et le site transactionnel de la coopérative sont très minimes. Il y a entre autres la couleur de certains caractères et les liens qui sont inactifs. Il est toutefois facile de s'y méprendre, car chaque année, des millions de dollars s'envolent vers l'étranger. D'ailleurs, devant l'augmentation du nombre de tentatives d'hameçonnage des derniers jours, Desjardins a émis vendredi dernier un avertissement sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser ses membres. Les gens sont plus fébriles durant le temps des fêtes. C'est une période où il y a beaucoup plus de transactions. Les gens ont besoin d'avoir accès à leurs fonds. Le blocage, même hypothétique, d'un compte bancaire entraîne une réaction. D'un point de vue psychologique, il s'agit d'un bon timing, explique au Soleil le président de la compagnie de sécurité Circo, Claude Sarrazin. Ce dernier traque depuis 1992 avec son équipe les fraudeurs du web à travers la planète. Il a entre autres, au cours des dernières années, retracé jusqu'en Israël un arnaqueur qui sévissait au Canada. L'expert en sécurité rappelle que le mouvement Desjardins et plusieurs autres banques à travers la province avaient été victimes d'une fraude similaire l'an dernier. Selon ses recherches, les arnaqueurs provenaient d'un ancien pays de l'Union soviétique. Chaque année, le Bureau de la concurrence et le Centre antifraude du Canada, CAFC, enregistrent des milliers de plaintes en lien avec des arnaques en ligne. Pour 2016, c'était plus de 20 000. Ce sont 40 millions de dollars provenant des poches de 8 000 victimes qui se sont envolées vers d'autres continents. Certaines périodes sont plus accessibles à connaître une hausse du nombre de fraudes. C'est cyclique, indique M. Sarrazin, notamment durant le temps des fêtes et lors de la production des impôts. Les gens sont alors plus vulnérables à un envoi de courriel de Revenu Québec ou de l'Agence du revenu du Canada. Ils sont plus nerveux. Ils vont parfois cliquer plus rapidement sur des liens qui s'avèrent des arnaques, poursuit-il, précisant que malgré la prévention, les fraudeurs font encore beaucoup d'argent. Donc, si vous recevez un message texte au nom d'une institution financière et que vous doutez de la provenance, un petit coup de fil chez votre banquier avant d'ouvrir le lien pourrait éviter bien des maux de tête. Chez Desjardins, la conseillère en prévention de la fraude Stéphanie Goyer-Coulombe affirme être au courant de cette situation. Elle indique que chaque jour, des responsables travaillent à faire fermer ces fausses pages. Durant le temps des fêtes, les gens font beaucoup d'achats en ligne et les fraudeurs le savent, souligne-t-elle, concédant que parfois des vérifications sont effectuées par messagerie texte auprès des membres, par le mouvement. Par contre, nous ne les redirigeons pas vers le site transactionnel d'accéder et nous ne demandons pas des informations personnelles, poursuit-elle, assurant que lors d'un vol d'identité, l'établissement rembourse les sommes perdues. Afin d'obtenir davantage de billets verts, les fraudeurs utilisent plusieurs autres stratagèmes en cette période de l'année. L'un d'eux est en lien avec les services de livraison de colis. Le fraudeur transmet alors un message au consommateur soulignant que sa commande lui a été livrée, mais qu'il n'était pas présent pour la recevoir. Il l'invite à cliquer sur un lien pour obtenir plus d'informations. Selon des données du Bureau de la concurrence, entre janvier 2014 et décembre 2016, on estime que les Canadiens ont perdu plus de 290 millions de dollars aux mains des fraudeurs. De ce nombre, près de 28 millions de dollars ont été récoltés dans le portefeuille de gens entre 60 et 79 ans. Dans le droit, Charles-Antoine Gagnon, le service de police d'Ottawa SPO tient à mettre en garde la population contre un individu qui se fait passer pour un chauffeur du service Uber et qui dérobe ses clients après avoir dupliqué leur carte de débit ou de crédit à l'aide d'un copieur de carte. L'arnaque se déroule dans le centre-ville, notamment dans le secteur du marché bail. Selon la police, le suspect attend généralement à bord de son véhicule tard la nuit et surveille les gens sortant d'un bar ou d'un restaurant susceptibles d'avoir besoin d'un taxi. L'imposteur aborde des clients potentiels et s'identifie comme chauffeur Uber. Ceci a lieu avant que le client n'ait l'occasion de se connecter à l'application Uber pour demander un transport, a expliqué le SPO. Le suspect conduit ensuite la victime à sa destination et utilise un copieur de carte après avoir demandé au client de faire son paiement par carte de débit ou de crédit.
Ave Maria. Fernand Gignac. C'est tout.
Là, je suis vraiment dans l'esprit de Noël grâce à vous, cher Mathieu. Merci. Un Fernand Gignac, ça se prend toujours bien.
Vous avez dit que c'était la musique de Noël de mon enfance. Cet
oui.
album-là, Fernand Gignac.
C'était pas une cassette?
Oui, c'est une cassette en or.
Du vrai art.
Tout à fait.
Merci. Actualité culturelle, Hugo Dumas, un humoriste, remplacera Éric Salvaille à V. La liste des prétendants au trône du roi déchu de V se précise. Selon mes espions, il ne resterait que 3 noms d'animateurs potentiels pour le nouveau talk show qui remplacera en mode Salvaille cet hiver. Phil Roy, Pierre-Luc Funk et Stéphane Rousseau. On me raconte également qu'Anthony Cavana, qui fait un retour en force au Québec, a failli décrocher ce job convoité au début du mois. C'était avant que l'humoriste de 48 ans ne soit victime d'une embolie pulmonaire qui l'obligera à ralentir la cadence professionnelle. Pour Pierre-Luc Funk, 23 ans, les chances qu'il s'assoie sur la chaise pivotante blanche d'Éric Salvaille sont très, très minces, me dit-on. Deux producteurs l'ont approché avec 2 concepts d'émissions différents. Il a refusé les 2 offres, préférant se concentrer sur sa carrière d'acteur, qui fonctionne très bien. En septembre, Pierre-Luc Funk, alias le kidnappeur Jérémy Gendron de Mémoire vive, a même battu le vétéran Guy Nadon de la série O pour le Gémeaux du meilleur acteur de téléroman. Malgré ses refus, le nom de Pierre-Luc Funk demeure sur la liste des candidats de V, car un producteur le courtise toujours et espère que le jeune comédien changera d'avis. Phil Roy, que V adore, semble en meilleure position pour obtenir la case de 22 heures du lundi au jeudi. Il attire une clientèle jeune, celle que V recherche, mais il y a un problème. Phil Roy, 29 ans, est en tournée tout l'hiver avec son spectacle Monsieur, ce qui compliquerait les horaires d'enregistrement. Stéphane Rousseau, 51 ans, apparaît comme le choix le moins risqué des trois. Il a beaucoup d'expérience en télé, il est hyper connu et il a chauffé de grands plateaux comme celui de Sur Invitation seulement à TVA. Deux questions se posent. La première, est-ce que Stéphane Rousseau désire sortir de sa sabbatique pour retourner au petit écran? La seconde, est-ce que V souhaite aller dans la voie plus traditionnelle qu'offre Stéphane Rousseau? Pour le moment, impossible d'obtenir des infos précises sur l'attribution du poste d'animateur de fin de soirée. On est en discussion avec plein de gens, mais rien n'est confirmé, a dit Michaël Majot, directeur des communications du groupe V Média. Alors que la journaliste Véronique Prince a quitté TVA pour Radio-Canada dernièrement, François Cormier fait le chemin inverse. Le journaliste affecté aux capsules La Vérif depuis cette année quitte le diffuseur public pour rejoindre les rangs de TVA Nouvelles. Selon nos sources, il pourrait occuper le poste laissé vacant par Véronique Prince sur la colline à Québec, une information qui n'a pas été confirmée par le diffuseur. Avant de passer à Radio-Canada, François Cormier était un produit TVA. Deux semaines après sa mort, le 6 décembre, Johnny Hallyday figure plusieurs fois dans les palmarès de vente, tant du côté des disques que du côté des livres. Europe 1 a rapporté mardi que 37 albums du regretté rocker se sont retrouvés parmi les 250 meilleures ventes la semaine dernière en France. Ce sont essentiellement des compilations, mais aussi son plus récent disque, Resté vivant, qui est passé du 140e au 23e rang. Par ailleurs, quatre livres portant sur le célèbre chanteur font partie du top 50 des essais, selon les chiffres de GFK Livre Hebdo, dont le livre de confidence « Johnny le guerrier » de Gilles Lotte, qui se retrouve en 9e position. La nomination du PDG de Radio-Canada reportée. Ottawa a élu 5 nouveaux membres au conseil d'administration du diffuseur public, alors qu'Ottawa a choisi mardi 5 nouveaux membres du conseil d'administration de Radio-Canada dans la liste de candidats proposés par le comité chargé de ces nominations. Le choix du futur président-directeur général du diffuseur public a quant à lui été reporté. Le mandat de l'actuel PDG de Radio-Canada, Hubert T. Lacroix, devait se terminer le 31 décembre qui vient, mais à la demande du comité consultatif indépendant des nominations au conseil d'administration de CBC Radio-Canada, le processus de sélection se poursuit, explique un communiqué du patrimoine canadien. Le comité, qui se veut non-partisan, a été formé le 20 juin dernier par Ottawa, et a pour rôle de proposer au ministère une liste de candidats pour les postes clés à pourvoir à Radio-Canada. Il est présidé par l'ancien journaliste Tom Clark et est composé de 8 autres membres, dont les Québécois Monique Savoie et Marc Baudet et le comédien d'origine ontarienne Colm Feore. Thank you. Québec vient en aide au journal Le Devoir. Après Groupe Capital Média, c'est au tour du quotidien Le Devoir de profiter d'une aide gouvernementale pour faciliter son passage au numérique. Le Conseil des ministres a donné son aval le 13 décembre à un prêt sans intérêt de 526 000 $ au quotidien montréalais pour accompagner une mise de fonds de l'ordre de 5 millions de $ du journal. Tout comme dans le cas de Groupe Capital Média, qui possède 6 journaux quotidiens, c'est par l'entremise d'Investissement Québec que passera l'appui gouvernemental au Devoir. Spectaculaire mais froid. Le Cirque du Soleil se lance dans une nouvelle aventure sur glace avec Cristal, dont la première montréalaise avait lieu hier au Centre Bell. Même s'il renferme plusieurs tableaux spectaculaires, dont un inspiré par le hockey, et d'autres numéros plus touchants, le 42e spectacle de la compagnie québécoise manque un peu de chaleur par moment. C'est une critique signée Raphaël Gendron-Martin. Le verdict, le Cirque du Soleil souhaitait se réinventer avec Cristal et sa première aventure sur glace. L'objectif a été en partie atteint. Mis à part quelques faiblesses en début de spectacle, cette nouvelle création renferme d'époustouflants tableaux qui sont appuyés par une efficace trame sonore. Reste maintenant à voir si le public embarquera dans cette nouvelle aventure. Humoriste en hélico, le Grand Montréal Comedy Fest visitera les banlieues. Les humoristes qui prendront part au Grand Montréal Comedy Fest l'été prochain se déplaceront en hélicoptère afin de pouvoir jouer dans plusieurs villes le même soir. Nous irons à la rencontre des gens, mentionne Martin Petit. Plus d'une vingtaine d'humoristes ont participé à la conférence de presse du nouveau Festival d'humour hier à l'Olympia de Montréal. Dans le groupe, les Martin Petit, Patrick Groux, Réal Bélan, Julien Lacroix et Maxime Martin était tout sourire de pouvoir annoncer les grandes lignes de cette première édition qui se déroulera du 1er au 15 juillet 2018. Comme l'indique son nom, le Grand Montréal Comedy Fest s'étendra jusque dans les banlieues autour de la métropole. Et les humoristes ont eu l'idée d'y présenter les mêmes spectacles dans le 514 et le 450. Ainsi, le 6 juillet, les mêmes artistes participeront à une soirée d'humour à l'Olympia de Montréal et au Zénith à Saint-Eustache. Des hélicoptères leur permettront de se déplacer rapidement d'une ville à l'autre. À Montréal, le festival s'installera dans son quartier général de l'Olympia où sera présentée la série 18 ans et plus à 23 heures. Des soirées seront notamment animées par Julien Lacroix et G. Dutemple. Eux qui étaient les vedettes de ZooFest, les jeunes humoristes tournent-ils le dos au festival qui les a fait connaître? Non, la porte n'est pas fermée pour un retour à ZooFest, répond Julien. Mais le problème initial, c'est que ce n'est pas vendu encore. ZooFest appartient à Juste pour rire. Le nouveau festival d'humour prendra aussi d'assaut le quartier latin et la rue Saint-Denis, où a longtemps sévi. Juste pour rire pour y présenter des soirées intimes au bordel, à l'Abreuvoir et au Théâtre Sainte-Catherine. Pour plus de détails sur la programmation, on consulte le facebook.com/Grand Montréal Comedy Fest. Dérapage contrôlé à la Tohu. Patrick Léonard entraîne le spectateur dans un monde de déséquilibre maîtrisé. Avec son spectacle solo Patinoire offert à la Tohu, Patrick Léonard du collectif circassien Les Sept Doigts s'aventure sur un terrain glissant, c'est le cas de le dire, mais ces déséquilibres, aussi drôles que soigneusement maîtrisés, ne mènent pas le tour de piste à la déroute pour autant. Au contraire, l'acrobate qui porte ici à la fois le chapeau de clown et de danseur est un véritable feu roulant dans cette offrande qui a vu le jour en 2011 et qui avait notamment fait bonne figure au festival Montréal complètement cirque. Patinoire est présenté à la Tohu jusqu'au 6 janvier.
Une sous le sapin, y a une file pour la file dans les magasins. Toutes les cartes que j'ai reçues viennent de la banque. Je dépense sans compter, mais y a toujours un manque. Dans tout ce faux, comment trouver le vrai? Je cherche les morceaux de mon cœur incomplet. Noël sur terre. Entouré d'éclats de verre ou bien d'éclats de béton, y a des morceaux d'hiver dans les murs de mon salon. Y a du givre sur ma fenêtre, on dirait quelque chose de beau. Une lueur au fond de mon être qui se fout des cadeaux. Si décembre me rend triste, tu me ramènes à la fête.
C'était la chanson Noël sur Terre que nous chantait Ian Kelly.
Et je commence ce segment sujet libre avec deux petites nouvelles internationales. Distributeur pour les sans-abri en Angleterre, l'ONG britannique Action Hunger a installé à Nottingham un distributeur de produits de première nécessité à destination des sans-abri. Une initiative présentée comme une première mondiale et qu'elle souhaite étendre à d'autres villes. La machine donne accès à de la nourriture, des vêtements et des produits de base à n'importe quelle heure de la journée et de manière complètement gratuite. Ces produits sont accessibles uniquement à des personnes sans abri grâce à une carte à puce qui leur est distribuée. Et l'autre brève internationale, les autorités de Delhi ont testé hier un canon anti-smog géant dans une tentative d'afficher leur détermination à lutter contre les dangereux niveaux de pollution dans la capitale indienne. Sorte d'énorme brumisateur, l'engin, normalement utilisé sur des chantiers et dans des mines, projette jusqu'à 100 litres d'eau par minute dans un rayon de 150 mètres. Le principe est que l'eau, en retombant, plaque au sol les polluants et purifie ainsi l'air. Pour Greenpeace, le gouvernement local cherche par là à détourner l'attention de son incapacité à combattre les sources de la pollution. Pause pause repas, c'est dans la presse d'aujourd'hui. Test de goût, les meilleures bûches du supermarché. L'équipe de pause a testé les bûches offertes en épicerie. L'exercice nous a peut-être coupé toute envie d'en manger encore à Noël, mais nous avons pu en tirer des conclusions afin de vous présenter celles qui, selon nous, méritent de figurer sur votre table pendant les festivités. Les bûches testées, Laura Secor, framboise et chocolat, Jessica Sélection, explosion de framboise, Laura Secor, forêt noire, bûche du bonheur, vanille et poire, pâtisserie Duquette, vanille et gelée de framboise. Nos préférés, la gagnante, Jessica Sélection, explosion de framboise, 19,99 $. Sobre en apparence, peu appétissante selon certains, elle est toutefois surprenante au goût. À l'intérieur, une mousse aérienne qui goûte les vraies framboises mariées à une autre très chocolatée. Les saveurs sont bien équilibrées et les textures variées. Le brownie du dessus est un rappel intéressant du gâteau présent à la base de la bûche. Le chocolat y est meilleur que dans plusieurs produits. Notre deuxième choix, bûche du bonheur, vanille et poire, 19,99 $, une présentation élégante. On a aimé la poire confite sur le dessus, le concassé de cacao sur les bordures et le gâteau étagé qui se révèle au centre de la bûche lorsqu'on la tranche. Le gâteau à saveur de vanille est léger et la mousse d'un goût délicat parsemé de morceaux de fruits. La vanille prend malheureusement le dessus sur les poires qu'on aurait souhaité plus nombreuses. Prendrait-on la chance de la servir à nos invités? S'ils sont nombreux, un dessert aux poires est un choix audacieux. Au caramel et au sucre à la crème, les bûches testées. Vachon caramel, Jessica Sélection caramel croquant, pâtisserie Michaud sucre à la crème, dessert sublime Dolce de Leche. La gagnante, pâtisserie Michaud sucre à la crème, 19,99 $, un bon choix si on a un penchant pour le sucre, ce qui est tout de même ce à quoi on peut s'attendre d'une bûche au sucre à la crème. Notre deuxième choix, Jessica Sélection caramel croquant, 19,99 $, une bûche qui semble sortie de chez le pâtissier, mais sans être tout à fait à la hauteur de ce qu'elle annonce en matière de goût. On a par contre aimé le côté craquant des noix en garniture, ainsi que la ganache au centre de la bûche. On poursuit, et je vous résume ça quand même un peu là, dans ma lecture, parce que les descriptions sont quand même assez longues. Aux noix, donc, les bûches testées, 3 fois par jour, caramel et noisette. Pâtisserie Duquette, pacane et caramel, Jessica Sélection, pacane au beurre, pâtisserie Duquette, noisette et bûche du bonheur, chocolat et noisette. Nos préférés, la gagnante, bûche du bonheur, chocolat et noisette, 15,99 $. Un bon dessert sobrement présenté qui se compare à certaines bûches plus artisanales. Les flocons sur le côté sont jolis, mais n'apportent rien au goût ni à la texture. Le glaçage est invitant et l'ensemble n'a pas l'air trop commercial, ce qu'on a apprécié. À l'intérieur, 2 mousses, celle au chocolat prend le dessus, mais on sent bien celle aux noisettes. Et notre deuxième choix, 3 fois par jour, caramel et noisettes, 22,99 $. Maintenant, 100% chocolat, les bûches testées, pâtisserie Duquette, triple chocolat, Laura Secor, triple chocolat, pâtisserie Michaud au fudge, hors catégorie, la bûche. Vachon traditionnel consiste en un gâteau à la vanille dans un enrobage chocolaté. Je pense que c'est la préférée de Mathieu et de plusieurs personnes. C'est comme une tradition. On l'aime parce que c'est la tradition, justement. Alors, notre préférée, selon toujours la presse, la gagnante, pâtisserie Michaud, bûche au fudge, 19,99 $. Une présentation qui annonce une bûche décadente, et c'est le cas. Les amateurs de chocolat seront sustentés. On a en effet mis le paquet avec un combo glaçage, mousse et brownie au chocolat. L'ensemble est costaud. Rien de mémorable côté goût, mais il s'agit néanmoins d'une bûche généreuse qui répond à sa promesse. Et finalement, la bûche à la crème glacée, les bûches testées, sélection, Iceberg vanille et fraise, iceberg chocolat et vanille, Coaticook traditionnel, Coaticook tire d'érable. Note globalement décevante, mais moins chère que les autres, elles nous ont paru sans surprise côté saveur et texture. La gagnante, Coaticook tire d'érable, 8,99 $. assez alléchante visuellement et tout aussi intense au goût, elle a la saveur de l'érable, très présente entre autres dans les pépites de la garniture qui lui donne un côté bien de chez nous. La crème glacée est bonne et le concassé d'érable, un ajout apprécié. Notre deuxième choix, Coaticook traditionnel 6,99 $. Un peu plus complexe que ses concurrentes avec sa crème glacée qui a bon goût. Son gâteau, toutefois peu présent, ses rares copeaux de chocolat et son coulis. Elle a une apparence industrielle, mais c'est un classique qui réveillera des souvenirs pour plusieurs. Alors voilà, test de goût des bûches de Noël. Vous savez tout, ou presque, c'est dans la section pause-repas, je vous le rappelle, de la presse d'aujourd'hui. Réconciliation des frères Gallagher, la guerre entre les deux ex-Oasis serait-elle terminée? En tout cas, un certain réchauffement a été amorcé si on se fie au fil Twitter de Liam Gallagher, qui a souhaité mardi un joyeux Noël à son frère Noël Gallagher. « Ce fut une année géniale, merci pour tout. J'ai hâte de vous voir demain », a-t-il écrit. Quand un fan lui a demandé si Noël partageait cet enthousiasme, Liam a répondu « We are... All good again. » Ainsi, ce qui a été un des plus célèbres et plus longs conflits de l'histoire du rock serait donc chose du passé. Voyons maintenant s'il passe les fêtes. Alors, ça finit bien cette chronique, hein, dans l'harmonie. Voilà, c'est tout pour le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci et qui aussi souhaite la bienvenue à l'hiver qui arrive quoi dans 30 secondes, Mathieu?
Exactement, 25 Alors, secondes.
Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, un très joyeux hiver et puis on se retrouve en ce qui concerne le quotidien des quotidiens le mercredi, ce sera le 3 janvier et ce sera François qui sera là, François Brodeur, pendant 3 jours. Moi, je vous retrouve le 8. Merci Mathieu à la mise en onde et au choix musical et... Restez là, puisque les paractualités s'en viennent. Et c'est moi qui anime cette émission. J'ai cette chance-là.